Donc Luc 13, 1 à 9, page 1168. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit : Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron : Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit : Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas.
Il y a quelques jours a eu lieu ce terrible drame à Gênes, en Italie. J'imagine que chacun en a entendu parler, un pont qui s'écroule d'un coup, entraînant avec lui voitures et camions. Alors, parmi les choses qui nous frappent dans ce type de drame, il y a sans doute l'aspect aléatoire. C'est tombé sur les quelques personnes qui étaient sur le pont pendant les quelques secondes concernées. Et si c'était arrivé une heure plus tôt, ou même une minute plus tôt, la liste des victimes aurait été toute différente. Ce n'auraient pas été les mêmes personnes. Ce genre de drame nous touche aussi sans doute parce qu'il rappelle la fragilité de l'existence. Les gens qui ont péri dans ce drame vivaient leur vie comme vous et moi, comme tous les jours. Et brusquement, en l'espace d'un instant, c'est fini. Et c'est bien sûr un événement qui, parmi tant d'autres qu'on pourrait citer, pose des questions vis-à-vis de la foi. Alors on va voir que le type de questions qu'on se pose à propos de tels événements peut évoluer selon les époques et les cultures. Mais en tout cas, on peut se demander, face à ce type de tragédie, que dirait Jésus ? Comment est-ce qu'il réagirait ? Comment est-ce qu'il réagit ? Bien, le texte que Marie vient de lire va justement nous montrer la réaction de Jésus face à des drames de son temps. Alors je propose d'examiner ça en 2 idées clés. Ce soir, une mise en garde nécessaire d'abord, et puis un appel salutaire dans un deuxième temps. Une mise en garde nécessaire. Alors je vais faire quelque chose qu'on ne doit pas faire normalement. C'est critiquer une prédication quand on est soi-même en train de prêcher. C'est très dangereux, ça peut nous retomber dessus. Je vais faire une exception et vous parler du pire message que j'ai jamais entendu, mais je vous rassure, ce n'était pas à la rue de Sèvres, rien à voir, puis c'était il y a longtemps. Mais ce jour-là, le prédicateur a comparé Jésus et Jean-Baptiste. Et l'idée centrale de son message était la suivante. Soyons comme, c'était l'application, on va dire, du message. Soyons comme Jésus et pas comme Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce que Jean-Baptiste, il parlait tout le temps de péché et de repentance, tandis que Jésus, lui, parlait d'amour. Et donc, il fallait être des gens comme Jésus qui ne parlent que d'amour et qui ne parlent pas de péché et de repentance. Alors, je ne sais même pas par où commencer pour commenter une telle absurdité. Mais au-delà de tout ce qu'on pourrait dire, le constat de départ est complètement faux. Jésus parle régulièrement de repentance, ce mot plus du tout à la mode. Ce par quoi il faut comprendre simplement le besoin de changer de vie pour revenir à Dieu. Et je le précise parce que le sens du mot a quelque peu dérivé dans la culture d'aujourd'hui. Mais la repentance dans la Bible, c'est tout simplement ça, le besoin de changer profondément pour revenir à Dieu. Et ce texte est situé dans une section de l'évangile de Luc qui est tout particulièrement axée sur ce thème. Jésus affirme que Dieu va intervenir pour juger le peuple d'Israël qui rejette son Messie, mais plus largement juger une humanité qui rejette son Sauveur. Et Jésus appelle ses auditeurs à se préparer à cette intervention divine. Et à la fin du chapitre 12 qui précède, on voit que Jésus met particulièrement en garde contre le risque d'une insouciance par laquelle on s'imagine que la vie va continuer indéfiniment, sans échéance, sans qu'on ait un jour des comptes à rendre à notre Créateur. Et c'est dans ce contexte-là qu'on arrive à ce chapitre 13. On vient rapporter à Jésus un fait divers, un drame particulièrement sordide. Le gouverneur Ponce Pilate, de triste notoriété, et dont évidemment les évangiles reparleront plus tard, qui a fait tuer des Galiléens qui étaient venus apporter des sacrifices dans le temple. On ne sait pas pourquoi cet événement a eu lieu, on ne sait pas pourquoi Pilate s'en est pris à ces Galiléens-là. Cela dit, ça cadre assez bien avec ce qu'on sait de ce personnage par ailleurs. Les sources historiques de l'époque nous présentent Pilate comme un dictateur implacable qui faisait volontiers couler le sang et qui avait aussi une dent contre le culte israélite. Alors aujourd'hui, quand un drame arrive, la question que le croyant se pose souvent est plutôt celle-ci. Où étais-tu, Seigneur ? Et pourquoi avoir permis un tel drame ? Question qu'on a le droit de se poser, bien sûr, et que la Bible pose aussi. Mais à l'époque du Nouveau Testament, la question que les croyants se posaient plutôt semble avoir été celle-ci. Qu'est-ce que ces gens-là ont bien pu faire pour mériter un tel sort ? Alors, on en a un exemple dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, quand on vient interroger Jésus à propos d'un aveugle né, un aveugle de naissance, et on lui demande, je paraphrase un peu, est-ce que c'est de sa faute ou de celle de ses parents s'il est né aveugle ? Et Jésus va leur répondre que ce n'est pas la bonne question à poser. Il n'y a pas vraiment de réponse humaine aux épreuves. S'il y a une explication, c'est à Dieu qu'elle appartient, plutôt qu'à nous. Mais la question qu'il faut se poser est plutôt celle-ci. Comment est-ce que Dieu m'invite à réagir face à la réalité de la souffrance et de la mort ? Et comment est-ce que ça va m'amener à me positionner vis-à-vis de lui ? Et dans notre texte, c'est la même chose que dans l'épisode de l'aveugle. Manifestement, les gens se posent le même genre de questions que dans l'évangile de Jean. Des Galiléens massacrés dans le temple alors qu'ils étaient venus adorer Dieu. Mais un tel malheur n'est concevable que s'ils ont fait quelque chose de grave pour le mériter. Mais Jésus va complètement rejeter ce type d'explication. Verset 2, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort ? Non, je vous le dis. » Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Oula ! Pas la réponse qu'on attendait. À l'époque, la réponse attendue était peut-être celle-ci. Oui, certainement, ils avaient beaucoup péché. Sinon, Dieu n'aurait pas permis qu'ils meurent dans des circonstances aussi dramatiques. Aujourd'hui, en Occident, au XXIe siècle, la réponse attendue serait peut-être celle-ci. Mais non, bien sûr, tout le monde est bon aux yeux de Dieu. Personne ne mérite de mourir. Contre tel drame, il n'y a que l'amour qui vaille. Alors aimons, 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 quelque chose de ce genre. Mais ce n'est pas non plus la réponse de Jésus. Et sa réponse nous met très mal à l'aise, il faut le reconnaître. Si vous ne changez pas d'attitude, on préférera ici la traduction traditionnelle, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Des mots qui semblent durs. Jésus va en rajouter une couche ensuite. Peut-être, histoire que les gens de Jérusalem ne s'imaginent pas que ces choses-là n'arrivaient qu'aux gens de Galilée au nord. Et il évoque cette fois une catastrophe naturelle, une catastrophe d'infrastructure, qui peut faire penser à celle de Gênes. Verset 4, ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tuée, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Alors, contrairement au massacre commis par un dictateur, par Pilate, on est ici face à une catastrophe purement aléatoire. Et les gens de l'époque pouvaient se dire que si on se trouvait sous une tour au moment précis où elle s'effondrait, c'est peut-être qu'on avait quand même quelque chose à se reprocher. Mais là encore, Jésus rejette cette explication et donne la même réponse. Non, je vous le dis, verset 5, si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Les drames font partie de la condition humaine. La Bible dit depuis ses toutes premières pages, elle enseigne que la révolte de l'homme contre Dieu a fait entrer dans le monde, créé bon à l'origine, la mort et la souffrance. En se détournant du Dieu de la vie et de la paix, l'homme a récolté la souffrance et la mort. Et face au drame du mal, la Bible nous invite régulièrement, plutôt que de spéculer sur le pourquoi d'un drame ou d'une épreuve, à nous rappeler ce drame de la condition humaine. Créé à l'image de Dieu, mais condamné à mourir en raison du péché, qui caractérise tous les hommes depuis nos premiers parents. Or, la Bible ne nous ramène pas à cette condition tragique pour nous accabler, mais au contraire pour nous faire prendre conscience que seul Dieu peut nous délivrer de cette condition. Seul le Créateur, le Dieu de la vie, peut faire sortir l'homme de cette futilité d'une existence cernée par la mort. Lui seul peut nous faire échapper à la fatalité d'une vie fuyante et frustrante. Lui seul, ultimement, a les clés de la vie et de la mort. Et c'est dans cette logique qu'on doit comprendre la mise en garde de Jésus. Si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Alors Jésus ne parle pas ici de la mort physique qui nous guette tous et qui est un héritage, elle aussi, de notre condition pécheresse. Si c'est simplement ça que Jésus veut dire, il apprend quand même rien à ses auditeurs. Ils savent quand même qu'un jour, ils vont mourir. Mais la mort physique peut être la porte d'entrée vers une autre mort, spirituelle celle-là. La condamnation éternelle qui est le sort de l'homme s'il ne se réconcilie pas avec son Créateur. Ce sont des choses difficiles à dire aujourd'hui, difficiles à entendre, même pour nous chrétiens, mais difficilement contestables dans l'enseignement de la Bible. Et par conséquent, le rappel de la fragilité de notre existence doit nous ramener à notre besoin de Dieu, à notre besoin de revenir à lui. Ce besoin est fondamental pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. J'imagine qu'il y en a parmi nous ce soir qui n'ont pas encore fait cette rencontre décisive de Jésus-Christ. Et vous vivez votre vie sous votre propre autorité, et ma foi, ça se passe pas si mal que ça. Pas plus mal que nous autres chrétiens. Et c'est vrai, Dieu est bon. Il fait du bien à tous les hommes. C'est ce que les théologiens appellent la grâce commune. Il a choisi de continuer à prendre soin d'hommes en rupture avec lui, dans un monde en rupture avec lui. Mais le jour vient, nous dit la Bible, où chacun devra rendre des comptes à Dieu. Et ce jour n'est pas si loin, sans même parler de ce qu'on appelle communément la fin du monde, ou ce que la Bible appellerait plutôt le jour du Seigneur. Eh bien, nos vies à chacun sont marquées par l'échéance de la mort. Et le fait est que nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Et la deuxième partie du texte, la petite parabole du figuier, le soulignera et nous y reviendrons. Mais maintenant, même pour nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, qui avons fait à un moment décisif ce demi-tour de la vie pour revenir à Dieu, il nous faut nous assurer régulièrement que nous ne perdons pas de vue la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que nos circonstances de vie sont infinitésimales à l'échelle du temps. Ce qui nous paraît si important aujourd'hui, que ce soit dans notre travail, dans nos loisirs, dans nos relations, sera vite oublié à l'échelle du temps et de l'histoire. Je me rappelle qu'une fois, je me demande si ce n'était pas toi, Paul, quelqu'un dans un message ici avait fait cette remarque. Qu'est-ce qu'on sait, ne serait-ce que de ce que vivaient nos arrière-grands-parents? Qu'est-ce qu'on sait de leur vie? Qu'est-ce qu'on sait de leurs projets? Alors peut-être qu'il y a quelques exceptions ici, des gens qui connaissent par cœur la vie de leurs arrière-grands-parents. Mais ça nous dit globalement combien ces choses qui nous préoccupent tant à l'échelle de l'histoire sont vite oubliées. Et plus que jamais donc, nous devons nous assurer que nos vies restent ancrées dans les projets et les promesses de Dieu qui nous sont offertes en Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que cet ancrage est possible. Plus encore, il est pleinement disponible pour chacun de nous. Dieu est là. Et s'il nous ramène à la fragilité de notre condition, c'est pour que nous puissions trouver refuge dans sa condition éternelle, puissante, souveraine. C'est notre second point. Un appel salutaire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette image. On est vraiment dans le thème des fruits ce soir. Je ne sais pas si c'était inconscient, mais je ne sais pas si vous connaissez cette image que j'ai entendue à l'une ou l'autre reprise. C'est l'image de la pêche et de la noix de coco. Il y a des gens qui sont comme des pêches, c'est-à-dire douces et avenantes à l'extérieur, mais il y a quelque chose de dur à l'intérieur. Et il y a d'autres qui sont comme des noix de coco. Vous avez compris, l'extérieur est dur et difficile d'accès, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de sensibilité et de douceur. Donc c'était la pause psychologie à bon marché. Mais si j'ose détourner cette image, je dirais que ces paroles de Jésus dans ce texte, et je détourne l'image, hein, j'ai bien dit, ces paroles de Jésus dans ce texte sont un peu des paroles noix de coco, dures a priori. Mais pour qui veut bien aller au-delà de cet abord difficile, il y a un profond réconfort disponible à l'intérieur. Parce que l'idée forte de ce texte, et ce que Jésus veut que ses auditeurs retiennent, c'est bien pour ça qu'il en parle, c'est qu'ils doivent et ils peuvent revenir à Dieu. Verset 3, « Si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Mais si vous changez, ça change tout. Idem au verset 5, et dans la parabole du figuier, ce qui retient l'attention, c'est ce sursis qui est accordé encore et encore par le propriétaire de la vigne. Alors j'entends mon propre enregistrement, c'est très étonnant. Donc ce qui retient l'attention dans la parabole du figuier, c'est le sursis accordé encore et encore par le propriétaire de la vigne. Et pourtant, la raison voudrait que le figuier soit coupé. Verset 7. « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Mais la réponse du vigneron, est une réponse d'espoir. « Laisse-le encore cette année. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Le sursis ne sera pas accordé indéfiniment. Mais pour l'instant, on espère encore. On espère encore que l'arbre remplira sa vocation en portant du fruit. Évidemment, il y a là une image de la grâce que Dieu accorde, encore et encore, alors qu'il aurait parfaitement le droit de rejeter le monde et les hommes qui ont rejeté son autorité. Alors, il est vrai que dans le contexte où Jésus s'exprime, l'image du figuier évoque sans doute quelque chose d'un peu plus précis. Et vous avez entendu les textes de l'Ancien Testament que Paul a cités tout à l'heure. Dans plusieurs textes de l'Ancien Testament, le figuier ou la vigne parfois représente Israël, appelé à adorer et servir Dieu. Et plusieurs prophètes d'Israël, notamment Ésaïe et Michée, emploient cette image d'un Dieu venu chercher des fruits dans sa vigne, mais trouvant des plants stériles. Alors quand Jésus évoque un figuier qui ne porte pas de fruits, ça faisait tilt chez ses auditeurs. Parce qu'il parlait de ce figuier qui ne porte pas de fruits et de la perspective que l'arbre soit coupé. Difficile de ne pas entendre là un jugement dans le contexte immédiat contre Israël qui ne reçoit pas son Messie. Et la suite de l'évangile de Luc, il me semble, confirme cela. Mais au-delà, il y a un avertissement bien sûr pour tous, pour tous les hommes. Et la suite du Nouveau Testament confirme que, et je pense qu'on peut dire ça de la Bible en général, ce qui est vrai à petite échelle pour Israël est vrai à grande échelle pour le monde entier. L'homme mérite la condamnation de Dieu, aussi dur à dire que ce soit. Mais Dieu est un Dieu de grâce, et sa grâce culmine en Jésus-Christ. Et celui qui raconte cette parabole est précisément celui qui est venu sauver les hommes de la perdition. Il est venu les réconcilier avec Dieu. Il est l'incarnation même du Dieu de patience et de bonté qui vient chercher les hommes pour les sortir de cet égarement. On peut peut-être supposer même que dans la parabole, Jésus est le vigneron, tandis que le propriétaire, c'est Dieu le Père. Alors, il ne faut pas trop pousser les détails d'une parabole, mais on peut quand même, il me semble, voir cela ici. Et par le mystère de la grâce de Dieu, Jésus continue d'intercéder, de demander au Père de patienter encore. À ceux qui s'étonnaient déjà quelques décennies après la mort et la résurrection de Jésus que la fin du monde n'était pas encore arrivée, l'apôtre Pierre répond ceci dans sa seconde lettre. S'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3,9. 2000 ans plus tard, Dieu patiente encore et il lance encore son appel. Il est encore temps de revenir à lui. Or, Dieu est à l'œuvre dans le monde. Un jour, il jugera, mais pour l'instant, il sauve. Il sauve à tour de bras. Nous vivons peut-être dans la région du monde la plus endurcie spirituellement, ça se discute sans doute. Et pourtant, regardez ce qui se passe, ne serait-ce qu'ici, à petite échelle, dans cette église, depuis quelque temps à peu près, au moins un baptême par mois. Oui, Sam et Sophie pourraient nous parler de ce qui se passe au Liban, également Catherine, une amie de longue date que je vois au fond de la salle. Et là-bas, je crois que c'est plus spectaculaire encore. Dieu sauve. Si on regarde ce qui se passe dans le monde, au-delà des événements qui font la une des médias, l'information la plus essentielle et la plus durable est que chaque jour, des hommes, des femmes, des enfants, par milliers, placent leur confiance en Jésus-Christ et sont réconciliés avec Dieu. Et c'est la bonne nouvelle qui résonne dans ce texte. Dieu sauve encore. Lui seul sait pour combien de temps, mais il fait grâce. Il a décidé de façon bouleversante que le cœur de son action envers les hommes serait la grâce, le pardon, la réconciliation. Et si j'ose dire, c'est ce qui intéresse Dieu aujourd'hui, la grâce, le pardon, la réconciliation. Alors si nous avons reçu cette grâce, si nous sommes disciples de Jésus, ne nous laissons pas distraire par tout ce qui pourrait nous faire penser qu'il y a d'autres espérances que celle-là. de bonnes choses dans le monde, à n'en pas douter. D'autres espérances ultimes pour l'homme? Non. Il n'y en a qu'une. Pierre l'écrit dans sa première lettre, cette fois, au chapitre 1, verset 13. « Tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. » Autrement dit, focalisez-vous sur la grâce. Tenez votre intelligence en éveil. J'aime beaucoup cette expression. Une autre application naturelle de ce texte pour nous, chrétiens, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, bien sûr. C'est une mission que Dieu a confiée collectivement à son Église. Parfois, on a tendance, dans nos milieux évangéliques, à se focaliser sur une responsabilité personnelle, qui est là, elle aussi. Mais avant tout, c'est à l'Église, collectivement, que Dieu a confié cette mission. Et nous ne sommes pas tous des évangélistes naturels. Pour ma part, je ne le suis pas. Mais nous pouvons tous trouver notre place de diverses manières dans cette mission. Je donnerai quelques exemples à notre échelle, à l'échelle de cette église locale. Si nous avons un proche, un collègue, qui de temps en temps, même un peu comme ça, l'air de rien, nous pose des questions sur notre foi, pourquoi ne pas l'inviter à la rencontre découverte? Ne serait-ce qu'une fois, lui proposer de venir et l'accompagner. Ou bien nous pourrions décider que nous prenons ce créneau du mardi soir, créneau qui est spécialement focalisé dans notre église sur les activités pour l'annonce de l'évangile, rencontre découverte, sortie semée, prendre un temps de prière chez nous, consacré à ces activités. Ou bien nous pourrions donner financièrement à des œuvres comme les groupes bibliques universitaires ou Agapé, qui font un travail remarquable d'annonce de la bonne nouvelle parmi les étudiants, entre autres. Ou nous pourrions simplement prévoir du temps, pour ceux parmi nous qui avons des enfants, prévoir du temps pour parler de Jésus explicitement à nos enfants. Pas juste la prière avant le repas ou le soir, ou la petite histoire, mais je me dis ça à moi-même aussi, leur expliquer ce qu'il a fait pour nous. Pourquoi nous croyons en lui? C'est encore un jour de grâce, alors profitons-en. Ne gardons pas pour nous la bonne nouvelle par laquelle nous avons été sauvés. Et pour ceux qui n'ont pas encore reconnu en Jésus leur Sauveur et Seigneur, eh bien le temps est venu de prendre une décision. Et n'hésitez pas à venir en parler ce soir avec Paul, avec l'autre Paul, avec moi-même, ou avec la personne peut-être à qui vous êtes venu et qui est chrétienne. Le temps est compté, la vie est fragile, nous ne savons pas de quoi demain sera fait, c'est un fait. Il est temps de nous tourner vers celui qui n'est jamais menacé, lui, par la souffrance et la mort. Celui chez qui la vie et la paix ont toujours le dernier mot. Amen.